La question méritait sans doute d'être posée, puisque la Bible n'en comptait pas moins de 613. Il s'était ajouté progressivement au décalogue, aux 10 commandements de Dieu. Nous savons que dans toutes les civilisations, on crée des lois au fur et à mesure que les circonstances ou les contextes le nécessitent. Et nous connaissons aujourd'hui, nous aussi, une véritable inflation juridique. Nous avons bien plus de 613 prescriptions légales, décrets, arrêtés et lois. Si bien que si nul n'est censé ignorer la loi, personne aujourd'hui ne peut prétendre les connaître toutes. La situation était un peu semblable à l'époque de Jésus, d'où cette question: quelle est la loi la plus importante, le premier commandement, celui auquel il ne faut absolument pas déroger. La particularité des lois bibliques, et nous l'aurons compris si nous avons été attentifs à la première lecture, c'est qu'elles concernent un peuple qui a fait la double expérience de l'esclavage en Égypte et de la libération par un Dieu qui s'est révélé comme le défenseur des opprimés, le libérateur de son peuple, un Dieu qui entend la plainte des malheureux, un Dieu qui prend la défense des humiliés, un Dieu qui fait alliance avec les hommes. Et toutes les lois bibliques sont émaillées de rappels. Rappel de la souffrance endurée par le peuple et rappel du Dieu libérateur. N'exploite pas l'immigré, car tu as toi-même été immigré au pays d'Égypte. La loi menace: si tu accables la veuve et l'orphelin, ma colère s'enflammera contre toi. Mais, nous le comprenons bien, ces menaces ont avant tout un but pédagogique. Peu à peu, l'homme, formé par la loi, deviendra fraternel et la menace, la coercition deviendra inutile. L'homme, formé par Dieu, apprendra à voir en chacun de ses semblables un frère à aimer. Dans la deuxième lecture, saint Paul montre aux Thessaloniciens comment ils doivent être des modèles de foi et d'amour. D'ailleurs, la manière dont ils l'ont accueilli a été une démonstration de cette charité. Même si pour cela, ils doivent rencontrer des épreuves. Il écrira ailleurs que les épreuves vérifient la qualité de la foi. Il n'est donc pas étonnant que nous rencontrions, nous aussi, aujourd'hui, des épreuves. Elles nous conduisent à la persévérance jusqu'au jour où le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et pour établir son règne qui n'aura pas de fin. Ce jour-là, la loi sera devenue inutile et seule la charité, seul l'amour subsistera. Dans l'Évangile, nous avons entendu Jésus répondre aux pharisiens qui lui demandaient quel est le plus grand commandement. Malheureusement, s'ils interrogent Jésus, ce n'est pas pour approfondir l'enseignement de la loi, en apprenant à séparer l'essentiel de l'accessoire, c'est pour mettre Jésus à l'épreuve, pour lui tendre un piège. Il le voyait en effet accomplir chaque jour des œuvres de miséricorde, guérir des malades, être proche des égarés, de ceux que la société considérait comme des infréquentables, ce que l'on appellerait aujourd'hui peut-être les blessés de la vie. Et les pharisiens, les docteurs de la loi, soupçonnaient que Jésus faisait tout cela au détriment de la loi de Dieu et du culte qui doivent lui être rendus. Ne faisait-il pas des guérisons le jour même du sabbat, jour sacré, où toute œuvre, toute action, tout travail est interdit? Dans la réponse qu'il leur donne, Jésus leur rappelle ce que dit le livre du Deutéronome, ce qui est écrit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Il aurait pu s'arrêter là, mais il ajoute quelque chose qui ne lui avait pas été demandé par le docteur de la loi. Le second commandement est semblable au premier. On lui demandait quel était le premier, et après l'avoir énoncé, il en donne un second, semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus met ces deux commandements ensemble pour montrer qu'ils sont inséparables et complémentaires. Plus tard, saint Jean écrira dans sa première lettre, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Pour vivre cet évangile, c'est vers le Christ que nous devons nous tourner. Ce qu'il nous demande, il l'a lui-même vécu jusqu'au bout. Au soir du jeudi saint, avant d'entrer librement dans sa passion, il disait à ses disciples, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Frères et sœurs, demandons-lui, pendant cette messe, qu'il continue à insuffler son Esprit Saint dans l'âme des croyants, dans l'âme de ses fidèles, dans nos âmes, pour animer nos pensées, nos paroles et nos actes, pour que nous sachions aimer au quotidien ceux qui nous entourent, même si cela peut parfois être une épreuve. Aimer au quotidien ceux qui nous entourent, même s'ils sont parfois mal aimables. Demandons-lui d'insuffler en nos âmes son esprit pour que notre charité soit active et généreuse, qu'elle ne soit pas faite de paroles, mais d'actions, d'engagement au service les uns des autres, pour qu'ils puissent ainsi reconnaître en nous ses disciples. Que la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Roncier, nous en accorde la grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.